Et ces deux lectures se trouvent dans le Nouveau Testament. La première dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, et à partir du verset 23. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 22 et verset 23. Nous lirons 10 versets jusqu'au verset 33. Ce qui fait 11 versets même, hein, semble-t-il. Voilà, Matthieu, chapitre 22, verset 23. « Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Et on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26 et verset 4. Il s'agit de l'apôtre Paul qui aura encore l'occasion de rendre son témoignage. Et nous lisons une partie de ce témoignage, verset 4 du chapitre 26 du livre des Actes. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en examen, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Amen. Et vous ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Oh là là, vous avez l'air blasé. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, mais on va y revenir un peu plus précisément. Je me dis que l'histoire qu'ont rapporté ces fameux Sadducéens à Jésus, entre parenthèses, les 7 qui ont eu la même femme, c'est barbe bleue ou rousse à l'envers, là, je ne sais pas comment il faut le dire, là, c'est bizarre. Hein, ces 7-là, franchement, l'histoire, elle est peu crédible, non ? Non ? Parce que je pense qu'avant d'arriver au septième, ils se seraient tous sauvés en courant, hein, disant « il y a un truc là, hein. J'hésite un peu quand même, hein. C'est pas du tout crédible. » Mais finalement, c'est tout aussi peu crédible et peu vraisemblable que la manière dont ils croyaient à la résurrection, puisqu'ils n'y croyaient pas. Quand on connaît un peu l'histoire, on sait que chez les Juifs, dans ces courants religieux, les Sadducéens étaient particulièrement très réticents par rapport à la résurrection. Pour eux, la résurrection, ça n'existait pas, ce n'était pas vrai. Donc, ils cherchent un moyen de contrer Jésus en utilisant cette drôle d'histoire. Il est évident que la résurrection, pour eux, c'était quelque chose de pas du tout crédible. Pourtant, c'était enseigné par Dieu. Ça a été repris par Jésus lui-même. Il parlera de sa propre mort et de sa propre résurrection. N'oubliez pas que ça a été repris dans les évangiles, ensuite dans le livre des Actes des apôtres, et qui plus est, tout le message des lettres de l'apôtre Paul parle de la résurrection, de l'éternité du ciel. D'ailleurs, dans une de ses lettres, l'apôtre Paul dira même « Si Christ n'est pas ressuscité, nous demeurons dans nos péchés. » Et si Christ n'est pas ressuscité, et si nous demeurons dans nos péchés, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans le message de l'Évangile, il y a une grande part attribuée à la résurrection. Et moi, je crois à la résurrection. Et ce qui me rassure, c'est que je ne ressusciterai pas comme je suis maintenant. Eh non, et ça c'est bien. Non pas que je ne me plaise pas, mais la faiblesse, la maladie et toutes ces choses-là, ça n'existera pas dans le ciel. Au ciel, plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes. Un corps incorruptible. Vous imaginez un peu la chose ? Un corps totalement incorruptible. Alors, ça peut sembler incroyable que Dieu ressuscite les morts, à juste titre d'ailleurs. Quand vous regardez dans le dictionnaire la définition du mot « incroyable », c'est précisément ce qui n'est pas croyable. Logique. Ce qui n'est pas croyable par son manque de vraisemblance, parce que ça suscite de l'étonnement par son caractère totalement excessif. Ça suscite de l'étonnement par le caractère excessif d'une chose, c'est totalement démesuré, c'est prodigieux, c'est extraordinaire. Eh bien oui, la résurrection, c'est incroyable. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas croyable, c'est juste incroyable. Une expression qu'on entend souvent, ça, aujourd'hui. Hein. Quand vous parlez avec certaines personnes, quand elles vivent des choses un peu surprenantes, elles disent, c'est juste, c'est le mot juste qui me plaît, c'est juste incroyable. Je crois, cet après-midi, que nous pouvons précisément croire que c'est pour ces mêmes raisons que quand on parle de résurrection, on peut parler de miracle. D'ailleurs, vous avez remarqué la réponse de Jésus, il ne discute pas sur l'histoire. Il aurait pu leur dire, vous auriez dû écrire des livres, des romans, hein, parce que là, vous en avez trouvé une drôle d'histoire. Il ne revient même pas là-dessus. Il trouve ça tellement absurde. Et il leur dit, mais décidément, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni ce que Dieu est capable de faire. En fait, il se permettait de juger les enseignements sans comprendre qui était derrière ces enseignements. Et je vous encouragerai à ne pas juger de cet enseignement de l'Évangile, à moins que vous ne connaissiez bien celui qui en est l'auteur, à savoir Dieu lui-même. Mais en jugeant et en jetant un peu trop facilement le bébé avec l'eau du bain, on en oublierait que l'eau, on peut la jeter, mais le bébé, on le conserve. Et quelque part, on a quelquefois des réactions un petit peu étonnantes, parce qu'on pense avoir raison, mais jamais vous dire que la résurrection, effectivement, c'est totalement hors de notre portée. Je peux essayer de raisonner, je peux essayer de comprendre, je peux essayer de faire des règles mathématiques, je ne comprendrai jamais la résurrection. C'est incroyable. Ça dépasse mon entendement, ça va au-delà de mon intelligence, et il est évident que c'est une science qui est supérieure à la mienne, c'est une science qui est bien plus élevée que la mienne. Ça signifie en d'autres termes que ça n'est qu'une œuvre divine, mais c'est une œuvre qui vient de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais que vous ne soyez pas en discrétion avec la résurrection, que vous ne soyez pas en bisbille avec la résurrection, que vous ne soyez pas gêné avec cela, mais que vous puissiez y croire du fond de votre cœur, parce que vous ressusciterez. Ouais. Si le Seigneur revient avant que vous mouriez, ben vous allez être transformé, évidemment, sans passer par la mort. Mais si vous devez mourir, vous ressusciterez. Seulement, je dois quand même vous prévenir, soit pour la vie, soit pour la mort, et oui, soit pour la vie, le ciel, soit pour la mort, l'enfer. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Alors, il est des choses qui sont totalement indomptables. On va rester sur ces choses qui ne sont pas contrôlables, qu'on ne peut pas gérer. Il y a des choses incroyables, mais il y a des choses indomptables. J'en connais au moins une, c'est la jalousie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il est dit ceci au chapitre 8 du Cantique des Cantiques, que je vous trouve ceci. Chapitre 8 et verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, est-il dit, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. » La traduction synodale écrit « Non pas la jalousie, mais la passion. La passion est indomptable comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. » La jalousie, dit le livre des Proverbes, est quelque chose d'incontrôlable parce que la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. La passion, vous avez entendu parler de la passion du jeu. Il y en a qui ont la passion du jeu. Vous savez ce que ça veut dire? On les interdit de casino, ces gens-là. D'ailleurs, certains d'entre eux ont souhaité eux-mêmes être interdits de casino, eux-mêmes. J'ai appris il y a longtemps que si vous allez dépenser votre argent dans un des casinos de Las Vegas, peut-être que ce n'est pas tous ces casinos qui font cela, mais certains en tous les cas, une fois que vous êtes ruiné, fauché, ils vous payent le billet d'avion pour que vous rentriez à la maison. C'est gentil, hein? C'est gentil, hein? Et pourquoi vous riez? C'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas vous avoir sur les bras, hein? Maintenant que vous êtes fauché. Eh oui, alors ils vous renvoient. Ils vous auraient sollicité, invité à venir. Venez dépenser votre argent chez nous. Vous y gagnerez peut-être. Mais eux, ils y gagnent assurément. Eux, ils y gagnent toujours. La passion du jeu, c'est destructeur. Combien de personnes n'ont pas survécu à une ruine soudaine comme cela et se sont suicidées? Ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Hein. Ça arrive plus souvent. Je me souviens de quelques jeunes que l'on avait connus et d'un jeune homme notamment que l'on avait connu qui m'expliquait qu'il avait un oncle qui avait pas mal d'argent et cet oncle dépensait un petit peu de sous au casino. Manifestement, il avait beaucoup de sous, donc il devait dépenser de son superflu, donc ça ne lui a jamais manqué. Mais il voulait susciter cette passion chez son neveu, sauf que le neveu, il n'était pas riche. Il n'avait pas beaucoup de sous. Donc à chaque fois que l'oncle lui disait « Hé, je vais au casino, tu viens avec moi ?» Il lui disait « Non, tonton, moi je vais aller taper le ballon, je vais aller jouer au jardin. Non, non, je viens pas. Pourquoi tu viens pas? Ben, j'ai pas de sous à dépenser. » Il essayait de joindre les deux bouts, c'était pas si simple. Et puis, son oncle, bon, n'insistait pas. Et puis voilà qu'un jour, le jeune homme va se marier. Et comme le tonton était très riche, il a envoyé un beau faire part au tonton. Il s'est dit « Je vais me marier. » Et le tonton lui a dit « Mais c'est formidable! Allez, viens, on va fêter ça, je t'invite au casino. » Il a insisté, hein. « Je t'invite au casino, on va passer la soirée au casino, je vais te payer ton entrée au casino. » Et j'ai plus la somme en tête, mais c'était du genre « Je vais te donner, actualisé aujourd'hui, 2-3 000 euros pour que tu les dépenses au casino. » Quand il a entendu ça, lui qui était un peu fauché, il dit « Écoute, non, tonton, je ne veux pas aller au casino, mais j'aimerais bien avoir les 3 000 euros. Hein. » Eh oui. Et vous savez quoi? Le tonton, il a dit non. Je te les donne si tu viens les dépenser au casino, sinon je ne te les donne pas. Il ne lui a pas donné l'argent. Le pauvre neveu, il a compris ce qu'était la passion du jeu. Hein. Ben ouais, la passion du jeu. Il y a des hommes qui ont la passion des femmes. Et il y a des femmes qui ont la passion des hommes. Combien de vies ça a détruit, dites-moi. Combien de vies ont été abîmées, totalement brisées à cause de ça. La passion, indomptable. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes pris par une passion quelconque ou une jalousie quelconque, elle vous dominera. C'est comme une convoitise dans le fond. L'apôtre Jacques, dans son écrit du Nouveau Testament, dira ceci en parlant de la convoitise. C'est un enclenchement qui est inévitable, mais duquel on ne peut pas s'extirper. Il est dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu quelque chose s'enclenche. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Vous entrez dans une espèce de tourbillon, de spirale, de laquelle vous ne sortirez pas. Il y a des choses terribles, telles que la jalousie et la passion, parce qu'elles sont indomptables, et vous avez pensé dompter vos passions. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais arrêtez de perdre du temps, vous n'y arriverez pas. Certains ont d'autres passions, que l'on nomme des vices d'ailleurs, qui sont beaucoup plus intérieures, beaucoup plus cachées. Ils n'en parleront jamais à personne. Si vous saviez le nombre de personnes que l'on a déclarées accro-addictes à la pornographie, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Impressionnant. Incapable de se contrôler face à cela et avec les moyens actuels, ça va tellement vite, c'est tellement facile. Il y a tant de passions qui sont considérées comme des vices, qui ne seront jamais étalées sur la place, mais Dieu regarde à votre cœur. Et Dieu est là cet après-midi pour dompter l'indomptable, pour vous débarrasser de ce que vous n'arrivez pas à éliminer de votre vie. Dieu est capable de faire cela. Il est des choses indomptables, il en est d'autres qui sont totalement inexcusables. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, « Qui que tu sois, tu es donc inexcusable. » Ouais, il s'adresse à chacun d'entre nous. « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais leur cœur sans intelligence se sont égarés dans leurs pensées, ils ont été plongés dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Vous connaissez l'histoire du savant fou ? Le savant était savant jusqu'à ce qu'il en perde la raison, il est devenu fou. Et tout ce qu'il avait créé, qui était parfait, est devenu destructeur. La main de l'homme a abîmé, cassé, détérioré tellement de choses. Il suffit de regarder autour de soi. On a du mal à arranger les choses, on a plutôt tendance à les abîmer. La création est une belle chose. La création est fantastique. Il y en a quelques-uns, et notamment un Français, qui se régale depuis plusieurs mois au-dessus de notre tête. Hein. Notre fameux astronaute qui regarde la Terre. D'ailleurs, je ne sais pas combien de fois il aura parcouru la Terre, mais ce sera des milliers de fois, hein, parce que ça va très, 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 très vite. Hein. Il parcourt la Terre, il fait le tour de la Terre en quelques minutes. Ça va excessivement vite, excessivement vite. Il voit, il contemple, il regarde la Terre. Vu de si loin, on a du mal à en voir toute la beauté, mais quand on se rapproche, il y a quand même des paysages fascinants, il y a des choses magnifiques. En général, quand l'homme n'atteint pas ces lieux-là, quand c'est vierge de toute activité humaine ou de la patte de l'homme, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Et nous, on a involontairement, ou alors inconsciemment, devrais-je dire, ou alors précisément volontairement, de façon prématurée, on a bien abîmé la Terre. Aujourd'hui, beaucoup d'études sont là pour démontrer qu'il va y avoir des raz-de-marée majeurs, comme on n'en a jamais connu, parce qu'il va y avoir des tremblements de terre, des glissements, sous les océans, tels qu'on n'en a jamais vu, et on sait que, quand on regarde, quand on examine la Terre, que tous les 200, 300 ans, il y a un réel événement majeur. Et pour toute la côte pacifique des États-Unis, on s'attend à quelque chose de grave, jusqu'en Amérique du Sud d'ailleurs, mais qui submergerait sur des kilomètres la côte. Donc aujourd'hui, il y a eu des raz-de-marée, il y en a eu un, il y a une dizaine d'années en Thaïlande, on sait les ravages que ça a causé, mais on vous dit que ça a été un raz-de-marée important, mais ce sera bien plus important que cela. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces choses-là ? Qu'est-ce qui provoque de telles choses ? Il paraît qu'aux États-Unis notamment, là où depuis quelques années, on a énormément développé les nouvelles ressources de pétrole, de gaz de schiste. On a creusé, on a fracturé la Terre. Il paraît qu'on a recensé des milliers de petits tremblements de terre qui n'existaient pas avant. Et ça ne cesse de s'accroître. Ben, c'est sûr qu'en travaillant en marteau-piqueur sur les fondements de la Terre, ça ébranle un petit peu tout. Donc la création est belle. Et quelque part, l'homme est inexcusable de ne pas l'avoir considérée telle qu'elle était si belle. Et il y a mis tellement, tellement de profit et tellement de volonté à détruire, à casser, à briser. J'aimerais vous dire que on pourrait s'excuser de beaucoup de choses, mais devant Dieu, vous ne pourrez pas vous excuser de ne pas avoir su. Pas avoir su que vous aviez besoin de lui. Pas avoir su que vous aviez besoin de pardon. Pas avoir su que vous aviez besoin de sa grâce. Que en touchant ici et là, vous ne faisiez qu'abîmer, que détériorer. Il y a un exemple dans un évangile, l'évangile de Luc, assez significatif. Il nous est dit qu'un homme bon, un homme qui était riche, a décidé d'organiser un grand banquet, a décidé de faire venir tout un tas de gens à cette fête. Mais la Bible dit que tous se sont unanimement excusés, prétextant qu'ils ne pouvaient pas venir. À l'un, parce qu'il a acheté un champ, il veut aller voir s'il a fait une bonne affaire. À l'autre, parce qu'il a acheté une paire de bœufs, il veut aller les essayer aussi. Et un dernier encore, qui justifie que comme il vient de se marier, ben il n'est pas libre, il ne peut pas venir. Que des excuses bidon, comme on dit aujourd'hui. Des excuses qui ne tiendront pas. Ça ne tiendra pas. Cet homme a été furieux en disant « mais ils étaient invités ». À la limite, ton champ, tu vas le voir demain. Hein. De toute façon, en pleine nuit, tu ne vas pas voir grand-chose de ton champ. Hein. Et puis, tu as des affaires, d'accord, mais n'y a-t-il pas des priorités, n'y a-t-il pas des choses importantes? On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens courent après le futile. Certainement pas l'utile, le futile. C'est peut-être l'expression d'un vide intérieur. Hein. Les gens sont vides à l'intérieur aujourd'hui. Regardez toutes les publicités qui vous promettent un an de salaire gagné à la loterie, ou alors tant d'argent, tant de ceci, tant de cela. Et les gens courent et courent et courent et courent. Un peu de sécurité. Mais vous ne trouverez pas de sécurité sans Dieu. Ce n'est pas possible. Vous êtes inexcusable. Parce que face, finalement, au péché indomptable, il n'y a qu'une seule solution. Et si vous refusez cette seule solution, eh bien, vous n'avez pas l'excuse pour l'avoir refusé. Et vous allez vous retrouver devant Dieu dans une situation très inconfortable. C'est que ce qui était inévitable va vous tomber dessus. L'apôtre Paul dira, le salaire du péché, ben, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés, dira-t-il, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Finalement, le péché produit la mort. Je ne veux pas vous décevoir, mais c'est totalement inévitable. Comprenez que vous êtes dans un circuit indomptable, inexcusable, inévitable. Indomptable, inexcusable, inévitable. Comment vous allez sortir de là? Vous ne pourrez pas sortir comme cela. La Bible dit, celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Dieu demandera des comptes à chacun. Il ne suffit pas de dire, attendez, moi j'ai quand même une liste assez impressionnante de gens beaucoup plus méchants que moi. Si je dois me justifier devant Dieu, je mettrai devant moi tous ces crapus, tous ces gens mauvais, tous ces gens méchants. Je les présenterai devant Dieu en disant, avant de me juger, juge-les. Mais Dieu va juger tout le monde. Dieu les jugera tous. Dieu les jugera tous. Et vous ne pourrez pas être justifié. Vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est totalement impossible. Alors vous êtes avertis, c'est incroyable de ne pas prendre en considération ces choses-là. Ce n'est pas croyable que l'on puisse vivre sans prendre en compte ces choses-là. Maintenant, évidemment, il faut mettre en face quelque chose, en parallèle, il faut mettre une réponse à ces problèmes sans solution. Eh bien, cette réponse, c'est le message de l'Évangile, parce que le message de l'Évangile révèle trois choses exceptionnel, c'est que le trésor de Dieu est totalement inépuisable. Trésor de Dieu totalement inépuisable. Il est fondé sur des promesses qui, elles, sont vraiment inébranlables. Et ce qui vous est promis, au travers de ce message, est totalement incorruptible. Ça, c'est incroyable. Après être passé par l'indomptable, l'inexcusable et l'inévitable, je vous encourage à emprunter la route de l'inépuisable, l'inébranlable et l'incorruptible. Ce serait tellement mieux. J'en reviens à quelques textes de l'Écriture. Regardez avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12. Luc, chapitre 12, et verset 33. Luc, chapitre 12, et verset 33. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Faites-vous un trésor dans le ciel. Vous ne savez pas comment faire. Faites-vous un trésor dans le ciel. C'est possible. Vous relirez ce chapitre 12 où il est parlé justement de ne pas se laisser aller à quelque inquiétude, mais le trésor qui vous appartient, il est caché au ciel, sauf que le coffre est ouvert. Vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il suffit tout simplement de demander. Demandez, vous recevrez, dira Jésus. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Toujours cet évangile de Luc, au chapitre 4, Jésus a ouvert le trésor. Quand il commencera son ministère, en arrivant dans cette ville de Nazareth qu'il connaissait bien, et les habitants de Nazareth le connaissant si bien, il est entré dans le temple et il a dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc chapitre 4, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Quelle est donc cette bonne nouvelle ? « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Et je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Et il continuera en disant, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. On ouvre le coffre, le trésor est ouvert. Que voulez-vous de plus que cela ? Vous savez, tous nos problèmes, ils tournent toujours autour des mêmes choses. Je n'ai pas d'argent, je suis dépressif, je suis malheureux, je souffre dans ma santé, je n'ai pas d'amis, je suis dans la solitude, etc., etc. C'est toujours centré sur notre personne, ce qui est logique. Ce qui est logique. Et là, vous avez, en réponse à tous vos tracas, vous avez un Dieu qui se propose de façon incroyable. Se propose de venir à vous pour vous guérir, guérir votre âme en souffrance, comme votre corps en souffrance, guérir votre être intérieur qui est brisé. Quelquefois, on a l'impression que les gens regardent mais ne voient pas. Ils regardent, mais c'est comme si la vue était trouble, ils ne voient pas que devant eux il y a encore un avenir. Eh bien, Dieu va changer votre regard, il va changer votre vue. Il va changer votre perception de la vie, de l'avenir. Il est capable de le faire. Ça, c'est un trésor. Ça, c'est un trésor. Aujourd'hui, certains affichent leur trésor. Ils ont des bijoux incroyables. Ça coûte cher, un solitaire. Même tout petit. Ouais. En bague de fiançailles, j'ai offert un solitaire à mon épouse. Et comme j'étais pas riche, je vous assure, il fallait le voir, le solitaire. Pouh, il était petit. Je me suis ruiné, mais il n'y avait rien sur la bague, rien. Mais c'était un solitaire, évidemment. Ça reste un solitaire. Il devait vraiment être solitaire sur sa bague, lui. Ouais. Ça coûte cher. Et certains affichent leur trésor parce qu'ils en ont. Mais franchement, vous pouvez avoir tous les diamants du monde. D'ailleurs, les plus gros diamants, ils sont enfermés, dans des vitres, derrière des vitres blindées, dans des musées, etc. Ça sert à quoi ? Ça ne fait pas dormir un solitaire. Ça ne fait pas dormir de l'or. Non. D'ailleurs, n'a-t-on pas dit quelquefois, mais je donnerai cher pour un peu de repos. Je donnerai toute ma fortune, je donnerai tout l'or du monde pour dormir une nuit tranquille. Les soucis, les problèmes, les difficultés. Vous avez un trésor à disposition que Dieu met à votre disposition. Et j'aimerais vous encourager en vous disant qu'il vous suffira de demander cet après-midi. Parce que ce trésor est totalement inépuisable. Allez-y, plongez. Allez-y, regardez dans ces promesses de la Bible. Et prenez, retirez, saisissez, prenez pour vous. Et prenez encore, et prenez encore, et prenez encore. Un trésor inépuisable. Dieu est capable de remplir votre cœur avec sa grâce. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, enfin, nous arrivons vers la fin de cette méditation dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Je vous cite au verset 28, il est dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, recevant un royaume inébranlable. Dieu fait des promesses cet après-midi. Il vous fait des promesses et, écoutez bien, elles sont fiables, elles sont solides, elles sont réelles, elles sont fortes. Vous n'avez pas l'habitude, hein ? En général, les promesses, ça dure le temps que ça peut durer. Mais en fait, pourquoi les hommes ne peuvent pas faire autant de promesses sûres et fiables ? Parce que les promesses sont à l'image de ceux qui les font, forcément. Eh bien, ces promesses de la Bible sont à l'image de celui qui les a faites, et c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Certains, pendant des siècles, se sont étonnés de se dire « Mais comment est la Terre ? Plate ? Ronde ? On va aller au bout de la mer et qu'est-ce qui se passe ? On tombe dans le vide ?» Eh oui, vous avez du mal à imaginer que sous leurs pieds, il y en avait qui marchaient la tête à l'envers. Non, une forme... Bon, c'est difficile à comprendre, mais la science a évolué et on a compris plein de choses. Mais je ne sais pas si c'est quand on a réussi à créer un premier télescope pour voir un peu plus gros la Lune, que ça a été le plus fascinant, ou c'est quand, si c'est quand les recherches ont poussé et que l'on a compris que des terres, il y en avait des milliers, des galaxies, il y en avait des milliers, que la Voie lactée, c'était juste un infini aperçu de ce qui existe au-dessus de notre tête. Quand on pense à tout ça, je me dis que celui qui me promet le bonheur, ben, il a la possibilité de me le donner, hein. Celui qui me promet la joie, il a la possibilité de me l'offrir s'il a créé tout ça, s'il a été capable de créer tout cela. C'est tellement facile pour lui. Ce qu'il ne fera pas, c'est demander à votre place. Ce qu'il ne fera pas, c'est de croire à votre place. Ce qu'il ne fera pas, c'est d'espérer à votre place. Mais je peux vous garantir que puisque celui qui a fait la promesse est réel et vivant, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et enfin, je parlerai de ce trésor qui a cette faculté de ne pas rouiller, de ne pas se flétrir. Vous aimez les fleurs ? Oui ? Vous avez entendu, vous, les autres qui n'ont pas répondu, tous ceux qui ont dit oui ? Voilà. Les fleurs, c'est super beau. Moi, je trouve ça super agréable, mais je suis toujours super frustré. Parce qu'au bout de quelques jours, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, je ne sais pas, un an. C'est pas que je veux être radin. Mais c'est tellement beau, c'est dommage, quoi. C'est dommage. On n'a pas le temps d'en profiter longtemps. Alors oui, je sais le mécanisme, il faut en racheter. J'ai bien compris. Mais quand même, vous avez vu, là, on a un bel exemple, ça se fane. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Tous ceux qui ont acheté un objet exceptionnel... une belle voiture, je ne sais pas, une belle maison, etc. Ça s'est abîmé avec le temps, même si vous en prenez soin, c'est comme ça, ça s'abîmera. On peut rien faire contre cela. Il y a une chose qui ne s'abîmera jamais, qui ne se détruira jamais, qui ne va même pas rouiller. On l'a lu tout à l'heure, aucun voleur ne va rentrer dans cette zone-là pour commettre un méfait. C'est impossible. C'est cet héritage que vous avez dans le ciel. Quand on y pense... un héritage fabuleux, et vous voulez vous en priver. Mais là, je vous le dis, c'est incroyable. Comment vous pouvez vous priver de ça ? C'est pas croyable. Vous n'allez pas faire cette bêtise. Vous n'allez pas passer à côté. C'est pas possible. C'est un trésor. C'est un cadeau qui vous est offert. La première épître de Pierre l'a bien signalé. L'avez-vous lu ? Ce texte où il est dit ceci, « Vous avez été régénérés. » pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Eh, mes amis sadducéens, vous doutez de la résurrection ? Mais alors vous doutez de tout ? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et plus tard, au verset 23 du chapitre 1er de la première épître de Pierre, donc, il dira ceci, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Cet héritage dont je viens de vous parler, ce message dont je viens de vous parler, il est d'essence divine. Il trouve son origine dans le ciel et il y est attaché au ciel. La semence de l'Évangile est bonne. Et vous savez quoi ? Elle n'est pas trafiquée. Elle n'est pas stérile. Aujourd'hui, on donne aux cultivateurs des semences stériles pour pas justement qu'ils ne ressèment eux-mêmes. On a trafiqué, mais non. Ce que Dieu vous promet portera du fruit, c'est sûr. Alors la conclusion, c'est que, imaginez que tout puisse changer, imaginez qu'on puisse être débarrassé de ses passions, imaginez qu'on ne soit plus esclave de nos vices, imaginez qu'à cause de cela, puisqu'on n'en est plus esclave, donc on passe de la mort à la vie, donc on n'est pas condamnable, ou en tous les cas, on est justifié, justiciable, mais justifié, on va sortir du couloir de la mort, mais c'est extraordinaire cela. Oui, c'est à peine croyable, mais c'est la vérité de l'Évangile. Cet après-midi, soyez assurés que si c'est incroyable à vue humaine, y aura-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu ? Jérémie disait « Rien n'est étonnant de ta part, ô Éternel. Rien n'est étonnant de sa part. » Alors vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de quitter cette salle cet après-midi sans avoir fait la paix avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que demain ne vous appartient pas. Ne risquez pas votre éternité pour un peu d'orgueil, pour un peu de dureté. La jalousie est inflexible. La passion est indomptable comme le séjour des morts. Si vous ne voulez pas faire la paix avec Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre cœur, si vous ne voulez pas faire la paix avec Dieu, vous vous opposez à Dieu, mais vous vous tirez une balle dans le pied, dans un pied, dans l'autre, dans la jambe, dans le bras, partout. Vous êtes en train de vous ruiner. Vous êtes en train de mourir. Alors je vous en supplie, comme dira l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. C'est une nécessité. Vous direz, mais je ne peux pas. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas aller mieux. Je ne peux pas. Je souffre trop. Je suis trop malheureux, etc. Laissez Dieu s'occuper de ces choses-là. La semence n'est pas stérile. Le trésor est inébranlable. Et ces promesses-là, ce trésor-là, est totalement inépuisable. Faites confiance en Dieu. On l'a chanté, tout a été dit dans les cantiques. C'est à la croix que Jésus a payé le prix. C'est à la croix qu'il donne tout. Et c'est là qu'il vous assure un avenir, un réel avenir. Amen. Est-ce qu'on prie ensemble, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu, baisser nos fronts et nous incliner maintenant un instant et demander à Dieu sa grâce ? Seigneur, nous venons devant toi parce que nous réalisons combien nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous sommes malheureux face au malheur des hommes. Nous sommes malheureux quand nous voyons la dureté du cœur de l'homme. Nous sommes malheureux lorsque nous voyons des hommes et des femmes en souffrance. Mais ce qui est plus insupportable encore, c'est de voir que quelqu'un refuse ta grâce. Ayant peut-être mal compris ou alors trop bien compris, refuse ta grâce, ne permets pas que quelqu'un s'en aille de ce lieu sans avoir fait la paix avec toi. Ne permets pas que quelqu'un quitte ce lieu sans avoir réalisé l'urgence, comme l'importance de faire la paix avec toi. Je t'en supplie, étends ta main. Cela est un message totalement incroyable. Comment les choses pourraient changer ? Mais ces hommes à qui a été fait le reproche, nous ne voulons pas l'entendre. Ces hommes qui ne comprenaient ni le message, ni la puissance de Dieu, ni le sens des Écritures. Nous ne voulons pas être jugés et condamnés à cause de cela, mais permets à chacun de comprendre le sens de ta parole. Tu amènes à la croix pour le salut, et tu amènes plus près de toi pour marcher dans une vie nouvelle. Étends ta main, je t'en prie, accorde ta grâce à chacun pour la gloire de ton nom. Amen.